Le gouvernement Trudeau présente un autre budget dans lequel les dépenses sont à la hausse.
C'est le budget des libéraux et du NPD qui essaient de se gosser une bouée de sauvetage.
5 000 postes de fonctionnaires abolis sur 4 ans.
C'est des postes qui ne reviennent pas. Une fois qu'ils ont quitté la fonction publique, ils sont perdus.
Et le compte à rebours est commencé. Les Jeux olympiques de Paris s'ouvriront dans 100 jours. Bonjour, ici Mathieu Bellumeur, bienvenue au Radio-Journal. Dépenses à la hausse, revenus aussi à la hausse. Le budget déposé hier par la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, contient plus de détails, mais pas beaucoup d'autres mesures que celles que le premier ministre a annoncées au cours des dernières semaines. Les craintes concernant l'explosion du déficit ne sont pas avérées. Il est élevé, ce déficit, à 40 milliards de dollars, mais c'est ce que prévoyait la ministre des Finances, Chrystia Freeland, l'automne dernier. Jean-Philippe Robillard est avec nous. C'est un budget quand même qui aura des conséquences directes sur le portefeuille de bien des Canadiens.
Oui, parce que Ottawa augmente l'impôt sur les gains en capital qui sont supérieurs, Mathieu, à 250 000 $. Le taux va passer de 50 % à 66 % dès la fin du mois de juin. Alors, ça va vous toucher, par exemple, si vous vendez une résidence secondaire, un chalet ou encore un immeuble locatif. Cela dit, le gain en capital qui est issu de la vente d'une résidence principale ne sera pas imposé. Autre changement qui va aider ceux qui veulent accéder à la propriété, les plus jeunes en particulier, à compter de mardi, la limite de retrait dans le cadre du régime d'accession à la propriété. Le RAP va passer de 35 à 60 000 $. Alors, ça va permettre d'augmenter la mise de fonds pour acquérir une maison, un condo. Autre mesure, depuis minuit, la taxe sur le tabac a augmenté de 4 $ pour la cartouche de 200 cigarettes et la taxe sur les produits de vapotage, qui sont très populaires auprès des jeunes, a augmenté de 12 %. Mais ce qui a fait surtout réagir, Mathieu, les gens qu'on a rencontrés dans la rue, c'est l'ampleur du déficit.
Il me semble que ça fait peut-être tellement d'années qu'on nous fait des annonces, je vois pas beaucoup de résultats.
40 milliards, c'est beaucoup. C'est plus urgent d'être focusé sur les logements parce qu'on veut vraiment qu'il y ait le plus de gens qui puissent en avoir.
On appelle par en avant puis on donne ça aux jeunes. C'est eux qui vont avoir à régler le problème.
Et Jean-Philippe, est-ce que les partis d'opposition vont voter pour ce budget?
Bien, comme ils l'ont fait dans les dernières semaines, les partis d'opposition, Mathieu, ont critiqué le budget du gouvernement Trudeau. Il y a le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre, qui a dit hier qu'il n'appuierait pas le budget, tout comme le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. On les écoute.
Après 9 déficits, Monsieur le Président, le gouvernement est riche et le peuple est pauvre.
C'est le budget de Justin Trudeau, des libéraux et du NPD qui essaient de se gosser une bouée de sauvetage dans leur détresse électorale actuelle.
Merci beaucoup, Jean-Philippe.
Merci, au revoir.
Et de son côté, le chef néo-démocrate, lui, ne s'est pas définitivement prononcé. Jagmeet Singh approuve en fait certaines mesures, mais il s'inquiète pour la fonction publique et les services à la population. Pour économiser des milliards de dollars, le gouvernement Trudeau annonce l'abolition de milliers de postes de fonctionnaires. Les précisions d'Estelle Côté-Sroka.
5 000 postes de fonctionnaires seront abolis sur 4 ans. Des postes laissés vacants lors de départ à la retraite ne seront pas pourvus et des contrats pourraient ne pas être renouvelés. Une mesure qui s'inscrit dans l'effort de recentrage des dépenses du gouvernement pour économiser plus de 15 milliards de dollars. La ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland.
C'est une mesure importante. C'est une démonstration. On contrôle nos dépenses aussi.
L'Alliance de la fonction publique du Canada soutient que la population verra une différence dans les services.
C'est 5 000 de trop.
Yvon Barrière est le vice-président régional de l'AFPC pour le Québec.
C'est des postes qui ne reviennent pas. Une fois qu'ils ont quitté la fonction publique, ils sont perdus.
Ces compressions sont toutefois minimes, car le gouvernement libéral a augmenté la taille de la fonction publique depuis son élection, explique le président du Comité des politiques publiques de l'Association des économistes québécois, Louis Lévesque.
Si le gouvernement négocie des augmentations de salaire, mais ne donne pas les budgets correspondant à augmenter au ministère, ben ça va créer une pression.
L'économiste ajoute que les gens devraient plutôt s'inquiéter de ce qui va se produire si les Canadiens élisent un autre gouvernement lors des prochaines élections. Ici Estelle Côté-Sroka, Radio-Canada, Ottawa.
Ce sont maintenant les ressortissants indiens qui arrivent par milliers dans les aéroports du pays depuis la réinstauration des visas pour les Mexicains il y a environ un mois et demi. La police américaine a arrêté plus de 400 Indiens le mois dernier près de la frontière dans le secteur de Saint-Armand, en Montérégie, au Québec. C'est 7 fois plus que l'an dernier à la même période. Les politiques du premier ministre indien Narendra Modi sont au cœur de ce mouvement migratoire, selon la chercheuse Catherine Vien.
On voit en Inde une augmentation des tensions intercommunautaires, des violences, de la discrimination envers les minorités religieuses. C'est ces tensions-là, donc les violences entre les communautés qui amènent des gens à vouloir quitter le pays pour venir, par exemple, au Canada.
Plus de 4 000 Indiens ont demandé l'asile au Canada en janvier et en février, c'est un nombre record. Le whip en chef du gouvernement Legault, Éric Lefebvre, quitte ses fonctions et va se présenter sous la bannière conservatrice lors des prochaines élections fédérales. Il est actuellement député d'Arthabasca, en fait depuis 2016, et va désormais siéger comme indépendant. Sur son compte X, le premier ministre François Legault lui a souhaité bonne chance pour la suite des choses. Éric Lefebvre va briguer la circonscription de Richmond-Arthabasca, présentement représentée par Alain Reyes, qui lui quittera la vie politique, il l'a annoncé à la fin de son mandat. Les élus de l'île d'Orléans estiment que le coût du futur pont entre l'île et la rive nord de la capitale nationale est justifié pour assurer la survie de l'économie locale. Québec a confirmé que les travaux vont commencer cet été et vont coûter 2,8 milliards de dollars au total. Il s'agit d'un montant près de 7 fois supérieur aux premières estimations de 400 millions de dollars publiées il y a plus de 10 ans. Voici le préfet de la côte de Beaupré, Pierre Lefrançois, suivi des maires de Saint-Laurent et de Saint-Pierre, Yves Coulombe et Sylvain Bergeron.
Nous, on n'a pas un malaise sur les coûts. On est bien content de la réalisation du projet. À un moment donné, quand les dés sont jetés, il faut procéder. Je pense qu'on était dû pour un nouveau pont à l'île d'Orléans.
Au niveau du transport, c'est un enjeu important, là, les limites de charge qui sont là. Le pont, 90 ans, il faut se rappeler de ça aussi, donc qui a été conçu pour d'autres fonctions que l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui.
Bien, il ne faut pas se baser sur la population, il faut se baser sur l'économie de l'île d'Orléans qui est basée sur l'agriculture.
Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7 se réunissent à compter d'aujourd'hui sur l'île balnéaire de Capri, en Italie. La montée des tensions au Moyen-Orient et la guerre en Ukraine seront au cœur des discussions durant cette rencontre de 3 jours. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron, veut d'ailleurs que le groupe impose des sanctions coordonnées à l'Iran à la suite de l'attaque contre Israël la fin de semaine dernière. Les pays du Golfe sont plus souvent en proie à des tempêtes de sable, mais ce sont des inondations qui paralysent la région. Les Émirats arabes unis déplorent un mort dans des pluies à la suite de pluies torrentielles. L'aéroport international de Dubaï, l'un des plus fréquentés au monde, a même détourné une partie des vols en raison de pluies diluviennes. Rose Saint-Pierre.
Le long d'une avenue de Dubaï qui s'est transformée en petite rivière, un homme pousse sa voiture remplie d'eau. Sur les balcons des condominiums luxueux, l'accumulation de pluie est bien visible et s'infiltre par les portes et les fenêtres. De grands centres commerciaux luxueux qui font la marque de la ville des Émirats ont aussi été inondés. Dubaï prolonge donc le télétravail pour ses employés jusqu'à mercredi et les écoles resteront fermées dans tout le pays pour 24 heures supplémentaires. Puisque la tempête n'a pas dit son dernier mot, de nouvelles averses sont attendues. Un phénomène qui pourrait se répéter selon les gouvernements émiratis et omanais qui ont averti que les changements climatiques risquent d'entraîner plus d'épisodes du genre en plein désert. Ici Rose Saint-Pierre, Radio-Canada, à Montréal.
Et puis, en terminant, le grand décompte est commencé. C'est dans exactement 100 jours que seront officiellement lancés les Jeux olympiques de Paris, avec la cérémonie d'ouverture qui doit avoir lieu le 26 juillet. Et la ville se transforme. Des tests sont réalisés pour assurer une bonne fluidité du transport pendant l'événement. La mairie et les autorités font des efforts pour transmettre leur enthousiasme aux Parisiens qui sont ambivalents devant les Jeux olympiques qui arrivent pour la première fois dans leur ville depuis 100 ans.
Moi, j'ai aucune excitation vis-à-vis des JO. L'organisation, les transports, le fait que nous, on continue à bosser.
Parce que c'est une chance pour nous de voir les Jeux olympiques en France, quoi.
En fait, on a promis plein de trucs. Je me rappelle même qu'on avait promis que les transports seraient gratuits. Et il n'y a rien qui est fait. Donc, je ne pense pas qu'on soit prêts, non.
Et ce matin, les policiers ont procédé à l'évacuation du plus grand camp de migrants de France en banlieue de Paris, où des centaines de personnes trouvaient refuge. Des groupes de citoyens ont d'ailleurs dénoncé cette opération qui arrive, selon eux, à un rythme de plus en plus soutenu à l'approche, justement, du début des Jeux olympiques. Voilà pour cette édition du Radio-Journal. Pour plus de détails et d'autres nouvelles, vous pouvez consulter notre application mobile Info. Et je vous rappelle que nos radio-journaux sont disponibles en rattrapage sur l'application audio de Radio-Canada. Ici Mathieu Bellumeur, au nom de toute l'équipe, merci d'être à l'écoute. Bonne journée.